Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Les services SMS et Internet étaient indisponibles pendant près de 3 semaines en RDC. Plusieurs personnes ont déploré cette situation car elles ne pouvaient plus communiquer comme d'habitude. Les réseaux sociaux, notamment Facebook, n'étaient plus accessibles sur les téléphones, sur les mobiles. Cela a causé des préjudices énormes aux fournisseurs ainsi qu'aux utilisateurs de ces sites. Alors, qu'est-ce que dit la loi congolaise en ce qui concerne le droit d'accès à l'information? Jean Kebaye, avocat au barreau de Matadi, encore une fois bonjour.
Bonjour.
Alors nous parlons du droit d'accès à l'information. Que dit la loi congolaise à ce sujet?
C'est la constitution du 18 février 1987 qui révisait à ce jour. Qui dit soit en article 24 que tout citoyen a droit d'accéder à l'information. Donc, c'est un droit qui est reconnu d'abord par la Constitution. En dehors de la Constitution, il y a les traités internationaux ratifiés par notre pays qui consacrent également ce droit. Nous avons l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la RDC, qui consacre également le droit d'accès à l'information. Nous avons l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui consacre ce même droit, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 19 qui reconnaît aussi à tout citoyen le droit d'accéder à l'information. Mmh. À cela, il y a d'autres instruments spécifiques comme la Convention des Nations Unies contre la corruption qui demande à tous les États qui ont ratifié cette convention de prendre des dispositions pour favoriser l'accès à l'information publique de tous les citoyens. Voilà, ce sont ces principaux instruments-là qui concernent ce droit de l'accès à l'information. Bien que nous n'avons pas encore une loi nationale d'accès à l'information qui définit les modalités et procédures à suivre pour tout citoyen qui désire accéder à une information publique, comment il doit s'y prendre. Mais c'est un droit qui est consacré et qui doit être respecté.
Et qui doit être respecté. Nous avons eu dans notre pays pendant près de deux semaines, trois semaines, les services SMS étaient coupés et Internet. Est-ce qu'on peut qualifier cela d'une atteinte au droit d'accès à l'information?
Absolument, c'était une atteinte au droit d'accès à l'information parce que les SMS, tout comme les réseaux sociaux, sont des canaux à travers lesquels les citoyens accèdent à l'information. Mais interrompre ce service, c'est empêcher des millions de personnes qui passent par ces réseaux pour pouvoir s'informer sur la marche de la chose publique, sur la marche des affaires dans le monde. Et c'est une atteinte très grave du droit d'accès à l'information. Mais malheureusement, on en parle si peu chez nous. Il n'y a même pas une enquête qui a été engagée par le gouvernement pour évaluer le préjudice que cela a causé. Puisque ces mesures ont porté atteinte aux opérateurs de télécommunications, aux banques commerciales qui fonctionnent essentiellement avec l'Internet, aux maisons commerciales de tout bord. Il y a des PME qui sont installées à Kinshasa, mais qui ont des partenaires à l'extérieur, et toute la communication s'est faite par Internet. Mais si on peut évaluer le coût ou le degré de préjudice que cela a causé aux citoyens, c'est une attente très grave, sans compter les petits citoyens qui sont là, qui doivent s'informer par l'Internet ou par les SMS. Et même les événements que nous avons connus, il y a des gens qui sont tombés victimes parce qu'ils n'avaient pas l'information sur ce qui s'est passé exactement. Il y a des gens qui sont sortis de chez eux pour se rendre au service, ignorant qu'il y avait un danger qui pouvait les guetter sur la route. Mais arrivés au service, ils sont surpris de voir les lieux étaient déserts. Et pour entrer, certains ont fait les pieds. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas eu accès à une information correcte sur les événements qui étaient en train de se dérouler. Et voilà pourquoi nous disons que il faut qu'au niveau de la RDC, au niveau du gouvernement, qu'on puisse ouvrir une enquête pour évaluer les dégâts causés par ces mesures, et aussi les citoyens sont encouragés à pouvoir saisir la justice pour demander réparation si jamais, à la suite de cette mesure, par la privation d'information, ils ont connu des préjudices irréparables. Ils peuvent saisir la justice contre la République ou contre l'auteur de cette mesure-là. D'abord, on doit l'identifier. On a dit le gouvernement, c'est trop vague, c'est plusieurs personnes, mais il y a une personne qui a pris cette décision-là. Mais elle est lourde de conséquences et c'est une atteinte grave au droit d'accès à l'information.
Voilà. Mais du moment où, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens diffusaient des photos qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'était passé, et puis vous voyez pas qu'il y a aussi des fausses informations qui circulent surtout sur les réseaux sociaux. Alors, doit-on laisser ces informations circuler au nom du droit d'accès à l'information?
Non, s'il y a les fausses informations, elles ne peuvent être anéanties que par des informations correctes, contraires. Puisque le gouvernement, à travers ses services, si jamais ils sont tombés sur les informations d'incitation à la haine ou à la révolte, comme on le disait, ou les images piratées qui circulaient sur les médias sociaux, mais ils pouvaient contredire cela par des images qui sont vraies en donnant la réalité de la situation sur terrain. C'est lorsqu'il y a des informations qu'on peut arriver à la rumeur et à faire circuler les informations qui ne sont pas correctes. Mais cela ne pouvait pas justifier la décision qui a été prise de pouvoir couper l'Internet et singulièrement les médias sociaux à travers lesquels les petits peuples passent pour s'informer.
Voilà. Et on nous fait signe que même jusqu'à ces jours, il y a certains réseaux sociaux, Facebook, qui n'est pas toujours accessible totalement. Et on parle parfois même d'une atteinte à la sûreté de l'État quand on utilise ces réseaux sociaux pour diffuser certaines informations qui ne sont pas correctes, Jean Keba.
Bon, atteinte à la sûreté de l'État, moi, je ne pense pas. L'État a suffisamment de moyens. L'État est puissant. C'est lui qui gère tous les moyens publics. Et il est plus puissant pour manipuler l'information à sa guise. Mais le problème étant qu'il y a la liberté de l'information qui est le principe, et l'État a plus de moyens pour informer. Mais si l'État donne l'information correcte, en passant par les mêmes réseaux, je crois que ceux qui apportent de fausses informations seront réduits au silence. Mais si l'État n'a pas la capacité ou n'a pas l'information à donner, mais comment il peut juger que cette information est vraie ou n'est pas vraie? Puisque l'État a tout un service qui s'occupe de la communication. Il y a plusieurs services spécialisés qui étudient toute information à la longueur des journées, qui les parcourent. Mais ils peuvent voir que non, telle information qui vient de telle source n'est pas vraie et la contredire. Et si le citoyen qui accède à ce réseau pour s'informer est en présence de deux informations contradictoires, mais va chercher maintenant à apaiser, à apprécier laquelle est vraie, laquelle n'est pas vraie. Mais malheureusement, l'État ne donne pas la bonne information. Mais l'État se plaint qu'il y a des citoyens ou des internautes qui donnent des informations qui sont manipulées ou
qui piratent les images. Et voilà. Alors, mais que dit la loi en cas de privation d'accès à l'information? Quelle est la sanction prévue par la loi?
Bon, jusque-là, la Constitution a consacré le droit d'accès à l'information et a prévu qu'une loi spécifique viendrait pour organiser l'exercice de ces droits. C'est-à-dire prévoir les modalités, éventuellement les sanctions. Jusque-là, la loi n'est pas encore votée. Je sais qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée au Sénat par le sénateur Moïse Nyarugabu, mais qui n'est pas encore discutée. Mais c'est lorsque cette loi sera votée que nous pourrons maintenant voir quelles sont les sanctions en cas de non-respect du droit d'accès à l'information. Mais qu'à cela ne tienne, comme c'est un droit qui est déjà reconnu, tout citoyen peut s'en prévaloir. Si je trouve que je suis victime d'une privation d'information qui me pose préjudice, donc c'est une atteinte à la Constitution de la République, atteinte au pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dont les dispositions font partie du droit interne. Il peut se baser sur ces dispositions-là pour saisir le juge, suivant le droit commun, afin de demander réparation. Mais par rapport aux sanctions spécifiques liées au droit d'accès à l'information, la loi n'est pas encore votée et ne sont pas encore clairement définies, tout comme le mécanisme.
Voilà, un droit d'accès à l'information, que dit la loi congolaise. Jean Keba, avocat au barreau de Matadi, est l'invité au Capi Service. Vous êtes à ces sujets, vous intéressez, si vous voulez participer, n'attendez pas les dernières minutes, appelez dès maintenant au 081 890 63 94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Droit d'accès à l'information, que dit la loi congolaise? Jean Keba nous dit qu'il y a une loi. La loi existe date de quelle période, Jean Keba?
Non, je dis ceci, qu'il y a une proposition de loi qui est déposée au Sénat, qui n'est pas encore votée. Mais nous avons la Constitution en vigueur, dans ses dispositions de l'article 24, qui reconnaît à tout citoyen congolais, ou à tout citoyen tout court qui vit en RDC, le droit d'accès à l'information. Et en dehors de la Constitution, nous avons parlé du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui consacre aussi ces droits et qui font partie de notre législation interne de par le principe levé par la Constitution. Donc tout citoyen, même s'il n'y a pas encore une loi spécifique, peut se baser sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques pour revendiquer son droit d'accès à l'information. Tout comme si celui-ci ne lui est pas reconnu. Il peut se plaindre contre l'État congolais au niveau du Comité des droits de l'homme, qui a la charge de surveiller la mise en application la mise en œuvre du pacte national des droits civils et politiques, et que l'État congolais a manqué à ses obligations qui est de faciliter à tous les citoyens le droit d'accès à l'information. Puisque c'est un droit qui est essentiel, qui est même transversal parce qu'il détermine aussi l'existence de beaucoup d'autres droits fondamentaux. Parce que dans toute démocratie digne de ce nom, le droit d'accès à l'information occupe une place de choix. C'est le moyen par lequel le citoyen doit participer à la gestion de la chose publique.
Mais si par exemple les citoyens utilisent mal, prenons par exemple les textos pour se passer des messages d'appel à la révolte ou d'appel à ceci, à cela, est-ce qu'on n'a pas à ce moment-là le droit de bloquer cela?
On ne peut pas, si une personne utilise mal l'outil de communication qu'est le téléphone pour causer préjudice à autrui ou aux institutions, et que cela constitue une infraction qui est prévue par la loi, je crois que le parquet a tout le pouvoir pour pouvoir s'en saisir et poursuivre la personne. Mais on ne peut pas empêcher à toute la communauté de rechercher l'information par ce canal, parce qu'il y a des personnes qui en ont visé. Je crois que c'est un motif, à mon avis, qui n'est pas fondé.
Bien. Nous avons un premier auditeur en ligne, Mavé Kisambika, de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Bonjour, Mavé.
Bonjour, Rodi. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs.
Quelle est votre question?
Juste une question à l'autre invité, Jodi. Je sais que l'invité a cité ensemble avec nous, et avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, juste pour ce qui s'est passé tout dernièrement, il y a deux ou trois semaines passées, le paisible peuple avait participé à une machination, donc à une manipulation des autorités gouvernementales qui cherchaient à privilégier leurs propres intérêts. Je ne sais pas si il peut nous dire quoi, parce que ce sont les autorités gouvernementales qui ont pris cette décision pour préjudicier l'accès à l'information paisible et peuple. Alors, je voudrais lui demander comment il qualifie cette action et si il y a des dispositions que le peuple lui-même peut se servir pour saisir les instances compétentes pour déposer la plainte contre le gouvernement, parce que c'est les autorités qui étaient à la hauteur de cette situation. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Parce que c'est le peuple en général qui était préjudicié par rapport à ces indigènes actions que nous avons connues tout récemment. Alors, le vite peut nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire, puis si peut-être ça peut se répéter pour la prochaine occasion.
D'accord, merci Freddy. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Freddy, et notre invité.
On vous écoute, Freddy.
Moi, ok, j'ai voulu contribuer à notre sujet parce que c'est des sujets qui intéressent tout le monde. Et moi, je suis en train de regretter notre gouvernement. On a coupé l'Internet. Premièrement, on a freiné les étudiants qui étaient les testeurs et les mémoires, et toutes sortes de choses. Mais pour leur propre intérêt politique. Je suis en train de demander d'abord à notre invité, est-ce que dans notre pays, il y a ces sacs ou pas, il y a la justice? Ce qui se passe dans des chaînes télévisées comme la chaîne nationale et Télé 50, etc. On est en train de filtrer les autres acteurs politiques. On les filtre, on les parle, l'autre, il est malade, c'est, on parle de
n'importe quoi là-bas. Oui, Freddy, on parle beaucoup plus. Vous avez des questions par rapport au droit d'accès à l'information. Allez-y, droit au but. Hein.
Oh, ça va. Et je demande toujours à notre invité que est-ce que ici, bon, nous les peuples congolais, si vraiment on a droit à l'information, tous ceux qui coupent quoi, l'internet et toutes sortes, est-ce qu'on peut les porter plainte? Merci beaucoup.
D'accord, merci Freddy. Jean Keba.
Ok, merci, cher auditeur. Et je commence par la question de Mavé qui demande comment peut-on qualifier la situation qui était intervenue dans celle des coupures de l'Internet, interruption des SMS, et qu'est-ce que le peuple peut faire? La première question, je crois que nous avons déjà répondu, c'est une violation ou une atteinte au droit d'accès à l'information, pure et simple. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Bon, le peuple ne peut pas agir en tant que peuple en général. Et si c'est une question de justice, c'est tout celui qui se trouve qui a été
préjudicié. Il a parlé même des, il y a Freddy qui a parlé des étudiants qui n'ont pas pu faire les travaux, les TFC, les recherches sur Internet, tout était bloqué pour eux.
C'est un préjudice qui peut justifier une action en justice pour demander réparation. Parce que nous avons le Code civil qui reconnaît à tout celui qui tombe, donc qui subit un préjudice, de pouvoir obtenir réparation de la part de la personne laquelle le préjudice est survenu. Si vous estimez que vous avez un préjudice et que vous pouvez l'évaluer, vous avez le droit de pouvoir saisir la justice en vous basant sur l'article 24 de la Constitution qui vous reconnaît le droit d'accéder à l'information. Dès lors que ce droit a été violé sans juste motif et que vous avez souffert, vous êtes en droit de pouvoir saisir la justice pour demander réparation. Ce qu'on a parlé du gouvernement, le gouvernement, c'est aussi une personne morale qui peut répondre à ses actes. Mais il y a un ministre qui a pris la décision, bien que le nom n'a pas été dévoilé au public. Mais quand on parle du gouvernement, c'est la RDC qui a violé ses droits. Et chaque citoyen peut pouvoir ester en justice pour contraindre la RDC à pouvoir réparer le préjudice qu'il a subi. Et c'est le cas pour les chercheurs. Nous avons les étudiants. Il y en a qui font les cours en ligne. Ils sont étudiants à l'université par Internet. Mais pendant des jours, ils ont été privés de ces cours. Mais s'ils avaient déjà payé leurs frais académiques auprès d'institutions, d'où ils tirent leur formation, c'est un motif qui est juste pour eux de pouvoir demander réparation. Mais malheureusement, les Congolais n'ont pas ce courage. On se plaint, chacun dans son coin, et ça s'arrête là. Mais s'il y a des voix qui se des courageux, qui s'élèvent, mais parce que cet acte m'a causé préjudice, je poursuis l'État congolais pour obtenir réparation. Et généralement, l'État est toujours perdant, parce que il prend toujours les mauvaises décisions. Si la réparation aujourd'hui, l'État doit débourser autant de millions pour réparer, et tel autre, prochainement, ceux qui ont le pouvoir d'engager l'État seront appelés à plus de prudence et de responsabilité avant de prendre n'importe quelle décision.
Droit d'accès à l'information que dit la loi congolaise. Et il m'avait posé la question de savoir maintenant comment, quelle est la procédure pour saisir la justice dans une telle situation.
Donc la procédure est la même question de consulter un avocat si vous n'êtes pas un juriste. Et il vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut commencer par rédiger la requête en visant la juridiction compétente. Si jamais la mesure était toujours pendante, on pouvait saisir le juge constitutionnel pour violation de la Constitution afin de faire cesser. Mais comme la mesure n'est plus pendante, vous pouvez saisir le tribunal de grande instance par une action en réparation du préjudice basée sur la mesure qui avait été prise, qui a porté atteinte à votre droit, et peut-être cette atteinte a engendré des préjudices qui demandent réparation. Et le juge civil sera appelé à pouvoir évaluer ce préjudice et voir si la faute était réellement établie et qu'il y a un lien de cause à effet entre le préjudice dont vous souffrez et la violation qui est intervenue, et condamner l'auteur de cette violation pour pouvoir réparer le préjudice dont vous souffrez.
Doudou Kadima nous appelle des Mbujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, c'est Alain Jeter.
Nous parlons du droit d'accès à l'information. Quelle est votre préoccupation?
Bon, moi, j'aimerais d'abord féliciter le gouvernement congolais qui avait quand même songé à couper les signaux parce qu'on traversait vraiment un moment très difficile. Il fallait faire ce qu'ils ont fait là pour calmer un peu la situation. J'aimerais un peu dire ce qu'il y a à l'invité, qu'il puisse bien me faire comprendre. Je ne sais pas si la loi pourra condamner qui, dans tout ce qu'on a vécu là, on coupe l'internet, on prive donc la population à l'internet. Mais là, j'aimerais un peu vous poser la question. Comment expliquer cela? C'est le gouvernement qui avait promulgué cette loi. Est-ce que c'est le même gouvernement qui pourra encore se sanctionner lui-même? Est-ce que ça se comprend, M. Joël Daniel Kachamba?
D'accord, merci. Jean Kéba, qu'est-ce que vous pouvez dire à Doudou Kadima?
Ok, bonjour Doudou, merci pour la question. Donc vous demandez comment le gouvernement qui a pris la loi,
lui-même qui promulgue la loi, le droit d'accès à l'information, et lui-même veut encore
se faire sanctionner.
Oui, se faire sanctionner.
Donc je vous dis simplement que le gouvernement qui engage l'État congolais est un sujet de droit. D'abord, avant de prendre la disposition que nous avons citée ici de l'article 24 de la Constitution, est prise par l'État congolais en exécution de ses obligations découlant des traités, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui ont demandé à chaque État signataire de pouvoir prendre des mesures législatives et administratives pour faciliter l'exercice de tous les droits contenus dans le traité qu'ils ont signé. Dès lors qu'il s'est engagé, donc il est parti à ce traité et il doit en répondre. Et la condition ayant été prise, l'État, par ses institutions, dont le gouvernement, sont tenus de pouvoir la respecter. Et chaque gouvernement qui ne respecte pas, puisqu'il y a le principe de séparation des pouvoirs, il y a plusieurs actes administratifs émanant du chef de l'État, du Premier ministre ou des ministres, qui sont cassés en justice sur simple requête. C'est dire que le gouvernement, bien qu'étant initiateur des mesures qui ont conduit à ces dispositions constitutionnelles, n'est pas au-dessus de la Constitution. Il est tenu de respecter la Constitution. Mais s'il ne respecte pas, et surtout s'il porte atteinte au droit qui est consacré par cette disposition, il peut être poursuivi. Nous avons beaucoup d'actions en justice qui sont dirigées contre l'État. Et l'État est souvent condamné. C'est vous dire que c'est l'État lui-même qui a organisé toute la procédure, qui a défini les différents principes. Mais dès lors qu'un de ses organes viole ces principes, la loi autorise la personne qui est lésée à pouvoir rester en justice, et même le gouvernement peut répondre, et il répond régulièrement de plusieurs actes qui émanent de lui.
Vous avez parlé de la disposition 24 de la Constitution qui prévoit la loi, l'accès à, les droits d'accès à l'information, mais les modalités d'application ainsi que les sanctions ne sont pas prévues. Alors, si quelqu'un va se plaindre d'injustice, les juges vont trancher sur base de quoi?
Bon, ça c'est une difficulté réelle, parce que si la Constitution prévoit que la loi vienne organiser des filets mécanismes, c'est pour faciliter l'exercice de ses droits. Bon, si on est dans le cas, par exemple, où une personne qui s'adresse à un bourgmestre pour me demander de lui communiquer le budget de la commune et comment il est exécuté, et que celui-ci refuse ou prend une décision pour interdire toute communication de pareille information, on peut saisir la chambre administrative de la cour d'appel pour casser cette décision-là. Ça, c'est en suivant la procédure administrative telle qu'elle est organisée. Mais par rapport à la sanction elle-même, puisque la proposition de loi qui est en discussion au Sénat prévoit des sanctions tant sur le plan civil, administratif, ainsi que sur le plan pénal, prévoit que non, on peut infliger telle sanction. Et là, c'est une difficulté qui, à ce niveau...
Il faut attendre que cette loi soit votée au niveau du Sénat.
Non, pas forcément. Mais cela n'empêche pas une personne dont le droit est violé, qui est préjudiciée, de pouvoir demander réparation. On peut le faire en se basant sur le droit commun.
D'accord. Maître Jean-Paul Kapata est en ligne depuis, il est du barreau de Bandundu. Maître Jean-Paul, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Bonjour, confrère, l'invité du jour. Alors, j'aimerais réfléchir un peu avec lui par rapport à la disposition constitutionnelle qui garantit la liberté à l'information. Alors, il est vrai que c'est un droit constitutionnel, mais j'aimerais un peu réfléchir avec les confrères par rapport au maintien à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits d'autrui. Alors, comment peut-on concilier les droits à l'information et le maintien à l'ordre public? Parce que le gouvernement, en voulant interdire l'exercice de tous ces droits-là, droits à l'information et autres, a évoqué notamment les motifs, la sûreté de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, l'inviolabilité du Parlement, plusieurs raisons. Mais j'aimerais un peu que les confrères puissent un peu m'aider à pouvoir concilier un peu entre les maintien de l'ordre public et la liberté constitutionnellement garantie de droit à l'information. Parce que la Constitution elle-même, l'alinéa premier et fine, prévoit également que sous réserve de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le confrère peut me dire à ce niveau-là. Je m'arrête là. Merci. Bonne journée au confrère.
Merci, Maître Jean-Paul. Jean-Keb, vous avez la parole.
Ok, merci, Maître Jean-Paul Kapata, pour votre question, qui est très pertinente. Vous demandez comment peut-on concilier l'exercice du droit d'accès à l'information et le maintien de l'ordre public. Je crois que la conciliation ne pose aucun problème, parce que le droit d'accès à l'information s'exerce dans les limites qui sont spécifiques. Et ce qu'il y a des cas pour lesquels l'information peut être restreinte, c'est notamment le cas d'atteinte à la sûreté de l'État ou pour les raisons de défense. Il y a le cas de la protection de la vie privée, ainsi que de certains intérêts économiques de l'État. Mais dans le cas qui est le nôtre, par rapport aux mesures qui ont été prises, demandez comment peut-on, peut-être autrement, vous voulez demander si le gouvernement n'est pas justifié par le motif qui a été avancé de dire qu'on a interrompu l'Internet
pour maintenir l'ordre public.
Mais je pense, bon, à mon avis, je pense que cela n'est pas vrai. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu cette décision-là du gouvernement. Nous avons tous été surpris. Aux heures de minuit, on fait des SMS, ça ne passe pas. L'Internet, inaccessible, sans aucune décision rendue publique et motivée. C'est quand les gens ont commencé à se plaindre ou à condamner que dans la justification faite par le ministre de Médias, qu'il a fait allusion que c'est pour le maintien de l'ordre public. et pour empêcher qu'il y ait propagation de faux bruits, d'incitation à la haine. Et je pense que ce motif-là n'est pas pertinent. Il est vrai que l'ordre public a une place capitale. Mais une décision doit être prise d'une manière claire et juste et surtout motivée. Dit que non, on restreint, on ne peut pas livrer cette telle information à X parce que si on la livre, on peut exposer l'État. Ou si on la livre, c'est dangereux que celui-ci utilise cette information pour nuire aux autres. Ou agir contre les bonnes mœurs, comme vous l'avez dit. Mais dans le cas que nous avons vécu, le motif de l'ordre public n'est pas clairement explicité. La personne, un banquier, toi, tu veux faire une opération à la banque. Ou tu veux demander s'il y a une opération qui est arrivée, donc qui a été passée dans ton compte. Tu ne peux pas le faire parce que l'internet est coupé. Quel lien y a-t-il avec l'ordre public? Parce que pourquoi on n'avait pas coupé le téléphone? Les gens qui faisaient le bruit pouvaient aussi le faire par téléphone. Et c'est ce qui s'est fait. Les gens s'appelaient, comment ça va là-bas, ici, il y a cela. C'était la communication. Mais ce qui a été fait, c'était des mesures que je dirais, qui sont allées au-delà des limites autorisées. S'il y avait des raisons précises et limitées à un ordre bien précis, on pouvait le dire. Mais on a eu, c'était un moyen pour le gouvernement d'empêcher ou de réduire la mobilisation de ceux qui appelaient à manifester. Que plus les gens accédaient, voyaient, recevaient les SMS, pouvaient être mobilisés à se retrouver à tel endroit. Mais là aussi, il y a atteinte au droit à la libre expression. Et l'ordre public voudrait peut-être qu'il y ait soit le secret défense, qu'une personne cherche l'information pour découvrir le secret ou les stratégies de la défense ou de l'armée nationale qui doit faire les opérations dans tel coin. Et si jamais il accède, il peut vendre la mèche aux ennemis ou aux rebelles et ça peut mettre la société en danger. Mais dans le cas d'espèce, couper l'internet et aux entreprises et aux citoyens, aux étudiants, aux chercheurs dans les universités, faire un lien avec l'ordre public, moi je ne le vois pas. Il est vrai que pour des raisons d'ordre public, le gouvernement peut restreindre l'exercice de ses droits. Mais dans le cas d'espèce, d'abord, la décision n'a pas été rendue publique. Nous ne savons pas qui en est l'auteur. Elle a été prise quand et comment, quelle a été la motivation. Nous ne pouvons pas nous baser sur les explications données par une personne qui n'a pas pris ses mesures, qui ne l'a pas brandie, pour que nous puissions en apprécier la pertinence pour justifier le motif de l'ordre public. Voilà le raisonnement que je peux faire en réponse à votre question.
Voilà, on retient que le droit d'accès à l'information est garanti pour tout citoyen et vous avez parlé de la disposition 24 de la Constitution qui consacre cela ainsi que d'autres traités internationaux qui consacrent ce droit d'accès à l'information, mais il reste à définir les modalités d'exercice de ce droit dans notre pays et ça c'est au niveau du la loi se trouve au niveau du Sénat, vous l'avez dit, et qui n'attend que d'être finalisé. Jean Kéba, avocat au barreau du Matin, nous vous disons merci et bonne journée.
Okay, merci.